réplique « Pourquoi Flaubert ?» avec Marie-Hélène Lafon et Alexandre Postel. Dans son livre « Le génie français », Régis Debray se pose la question suivante. Quel est notre grand écrivain national? Et contre Stendhal, il choisit, avec autant d'éloquence que d'émotion, Victor Hugo. Il me semble que mes deux invités d'aujourd'hui, Marie-Hélène Lafon et Alexandre Postel, refusent de se laisser enfermer dans une telle alternative. C'est Flaubert, en effet, qui les fascine et qui les inspire. Le volume de la collection « Les auteurs de ma vie » de Buchet-Chastel a été écrit par Marie-Hélène Lafon et Alexandre Postel publie chez Gallimard un roman intitulé « Un automne de Flaubert ». Dans ce livre, Alexandre Postel, vous relatez justement une soirée chez Victor Hugo où Flaubert s'est rendu sur les conseils de Georges Sand. Alors commençons par là. Quand cette soirée a-t-elle eu lieu? Que s'est-il passé? Et quelles leçons en tirez-vous, Alexandre Postel?
Cette soirée a eu lieu au printemps 1875, à une période où la vie de Flaubert lui semble s'écrouler, pour toutes sortes de raisons, financières, morales. Et Georges Sand, avec cette délicatesse et cette sensibilité qui la caractérise dans ses relations d'amitié, et en particulier avec Flaubert, Georges Sand lui suggère de rendre visite à Victor Hugo, parce qu'elle considère que la fréquentation de cet homme et de celui-là seul serait de nature à le consoler. Et Flaubert, diligemment, se rend donc dans le salon que tient Hugo un soir de mars 1875. Et il en ressort très déçu. Cela, nous le savons par la correspondance. Il écrit une lettre ensuite à Georges Sand pour se plaindre que le remède proposé n'était pas le bon. Il reproche notamment à Hugo d'avoir dit des sottises sur Goethe, qui fait partie de ces auteurs qui sont pour Flaubert des phares esthétiques et moraux et littéraires. Et l'hypothèse que je fais, c'est que cet échec, cette déception, tient à deux raisons. La première, c'est que Flaubert est dans un état de grande faiblesse à ce moment-là et que Victor Hugo est l'incarnation de la force, d'une forme de puissance, de force, à la fois physique, littéraire, politique, sociale. C'est pour Flaubert, à ce stade de son existence, écrasant. Et par ailleurs, il me semble que Flaubert, en se rendant chez Victor Hugo, ne demandait qu'à être déçu. Il cherche l'impossible, en fait. Il cherche une sorte de dieu. Et Victor Hugo n'est qu'un homme et ne pourra pas le sauver. Il le renvoie à sa solitude.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, et là je pose la question à vous, Alexandre Postel, mais aussi à Marie-Hélène Lafon, est-ce qu'il n'y a pas quand même une incompatibilité entre Flaubert et Victor Hugo? Parce que comme l'a écrit Baudelaire, Victor Hugo serait moins admiré s'il était parfait, et il n'a pu se faire pardonner son génie lyrique qu'en introduisant de force et brutalement dans sa poésie ce qu'Edgar Poe considérait comme l'hérésie moderne capitale, l'enseignement. Donc il y a quand même un côté édifiant chez Victor Hugo, même dans ce roman dont Philippe Val disait l'autre jour qu'il était chaotique, Les Misérables. Et n'est-ce pas là, précisément, ce qui peut contrarier Flaubert, si j'ose dire, le côté Georges Sand de Victor Hugo, Marie-Hélène Lafon?
Peut-être chez Victor Hugo et chez Georges Sand, une sourde, tenace et définitive confiance dans l'humanité.
Exactement.
Que Flaubert n'a jamais eu, même quand il avait 12 ans ou 25 ans, et qu'il a encore moins, d'autant plus que vous soulignez bien qu'il est conscient lui-même de ce qu'il appelle son appauvrissement. Il a perdu sa faculté d'émerveillement, dit-il. Dites-vous, soulignez-vous à plusieurs reprises dans votre livre, il l'a perdu au sujet et face au paysage, mais aussi très certainement au sujet et face à la littérature. Et d'ailleurs, vous tournez aussi Victor Hugo d'une certaine manière en dérision, puisque cette puissance et cette force que vous venez de souligner, et dont il serait bien question, hein, et qui domine tout le 19e siècle, comment est-elle illustrée pendant cette fameuse soirée ? On voit Victor Hugo qui, pour épater ses deux petits-enfants, avale, engloutit une pince de homard. Moi, ça me paraît un sommet d'ironie. Donc vous-même, vous découpillez la grenade à l'intérieur du texte.
Oui.
Alexandre Pestel.
Il est tentant et il est peut-être facile de rire avec Victor Hugo, d'ironiser avec Victor Hugo et de se placer comme ça dans une position légèrement oblique. Pour en revenir et pour élargir cette question de l'enseignement moral que vous soulevez dans votre question, Flaubert, en effet, s'en est toujours méfié, l'a toujours récusé implacablement. Dans sa correspondance, par exemple, il se plaint. Il faut que chaque œuvre maintenant ait sa signification morale, son enseignement gradué. Il faut donner une portée philosophique à un sonnet, qu'un drame tape sur les doigts au monarque et qu'une aquarelle adoucisse les mœurs. L'avocasserie se glisse partout. La rage de discourir, de pérorer, de plaider. Cette forme-là, l'avocasserie, cette forme d'enseignement moral, Flaubert la récuse. On est d'accord. Mais ça ne signifie pas pour autant, je dirais, que son œuvre soit dénuée de toute forme d'engagement, pour autant. Il y a un engagement qui tient précisément à l'éviction de la péroraison, à l'éviction de la personnalité, à ce qu'il appelle l'impersonnalité, et qui est une manière, esthétiquement, de mettre de côté le « moi », le sujet moral, pérorant, enseignant, didactique, pour faire advenir une zone et un espace qui n'est pas celui de la subjectivité narcissique, mais celui de l'impersonnalité, de la vie observée avec justesse, avec justice. Et par là même, il y a une éthique de l'écriture.
Oui, une éthique de l'écriture. Alors, pour illustrer ce que vous dites, Alexandre Pestel, je vais lire un extrait de sa correspondance avec George Sand. « Je ne fais pas de la désolation un plaisir, croyez-le bien. Il la vouvoie, elle le tutoie, tout au long de cette correspondance. Mais je ne peux changer mes yeux. Quant à mes manques de conviction, hélas, ça c'est merveilleux, les convictions m'étouffent. J'éclate de colère et d'indignation rentrée. Mais dans l'idéal que j'ai de l'art, je crois qu'on ne doit rien montrer des siennes et que l'artiste ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature. L'homme n'est rien, l'œuvre tout. » Voilà, il se dégage en effet, sa subjectivité doit disparaître au profit de l'œuvre et ses convictions, il faut qu'il sache les maîtriser à partir du moment où il écrit un roman. Marie-Hélène Lafont.
Maîtriser ses convictions, disparaître, et en même temps, le tour qu'il va donner aux choses, aux êtres et aux situations, dit ce que vous appelez son engagement. J'en veux pour preuve, par exemple, la façon qu'il a d'incarner les écrasés définitifs, d'incarner la position et la condition ancillaire. Ce qu'il en dit et ce qu'il en montre, le met à la fois dans cette position de retrait et dans cette position d'engagement.
Oui, c'est vrai. Il n'a pas la confiance dans l'humanité, disiez-vous, Marie-Hélène Lafont, qui caractérise aussi bien George Sand que Victor Hugo. Autrement dit, il y a toute une littérature et toute une pensée politique qui, au XIXe siècle, mais aussi au XXe, remplace l'idée de péché originel par celle de crime originel. Il y a un crime qui est celui de l'inégalité, de la propriété, etc. Donc, un point de vue rousseauiste sur les choses. En corrigeant la société, l'humanité s'améliorera. Et c'est d'ailleurs une citation de Victor Hugo qui apparaît à la fin du film Les Misérables, de Lajli. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Flaubert est beaucoup plus pessimiste. Il ne croit pas à cela. Il ne croit pas à une rédemption possible de la nature humaine. Et il peut être, c'est d'ailleurs un de vos mots dans Un automne de Flaubert, il peut être cruel. Mais d'un autre côté, il y a aussi une certaine tendresse, c'est vrai, et notamment dans Un cœur simple. C'est-à-dire, c'est cet homme d'une lucidité terrible, hein, et on en parlera pour Madame Bovary, et ben, il y a des personnages auxquels nous sommes amenés à nous identifier et qui sont cette félicité, qui sont aussi Charles Bovary. On ne peut pas ne pas aimer Charles Bovary avec justement toutes ses limites, tous ses défauts, toute sa naïveté. Mais c'est ça, donc ça voudrait dire que il y a une bonté de Flaubert dans sa capacité à peindre lui-même la petite bonté.
Oui.
Marie-Hélène Lafont.
Il y a une bonté, il y a une tendresse.
Une tendresse, voilà, c'est ça,
oui.
Le mot est meilleur.
Une douceur. Il y a une bienveillance en dépit de Homais, de Bourret et de cette de toute cette litanie de d'hommes terrifiants. Il y a un regard, toujours, me semble-t-il, hein, qui ne se dément pas, du côté de ce qui tient chaud. Parce que Flaubert a besoin d'avoir chaud. On sent que c'est un homme qui a le vertige en lui, il porte des nécropoles en lui, c'est le mot qu'il emploie.
Mmh. Et d'ailleurs, votre livre, Marie-Hélène Lafont, s'ouvre sur ces mots, un peu comme une chanson, Flaubert Forever, je l'appelle aussi le bon Gustave. Le bon Gustave, et vous dites un peu plus loin que c'est un colosse sentimental, un tendre carnassier. On ne s'attend pas à ce syntagme, le bon Gustave. Mais c'est vrai, c'est l'homme qui a écrit Un cœur simple, c'est l'homme qui, effectivement, déploie une certaine tendresse pour Charles Bovary, et c'est un peu le mystère de sa création. Il n'est pas tout entier cruauté. Alexandre Postel.
Non, mais c'est lié, me semble-t-il, à cette question, j'y reviens, de l'impersonnalité esthétique, que j'ai mis beaucoup de temps à commencer à comprendre. Parce que longtemps, il m'a semblé, à la faveur aussi de certains éclairages critiques peut-être, que cette question d'impersonnalité orientait vers une forme de littérature ascétique et d'une certaine façon... coupé de la vie, voilà, formelle, formaliste, n'ayant d'autre horizon que celui de son propre déploiement. Et ce que veut dire Flaubert, me semble-t-il, quand il parle d'impersonnalité, c'est ce qu'il explique très clairement, notre cœur ne doit être bon qu'à sentir celui des autres. C'est-à-dire que cet effacement de soi a pour corollaire un élargissement de la sensibilité, un élargissement du regard, et même une dépersonnalisation du regard, qui aboutit littérairement à une prise en charge de toute la vie, en fait, par l'écriture. Et cette bonté, cette acuité, cette implacable bonté, comme vous dites, cette attention, elle glisse non seulement sur les êtres, tous les êtres, mais aussi sur les choses, sur les bêtes, sur les paysages, sur la vie tout entière.
Et ça implique aussi une certaine idée de la vérité romanesque. Oui. La vérité, c'est pas la sincérité,
non.
Avant toute chose, c'est l'attention. Oui. Le mot est très fort, et c'est par ce souci d'attention qu'on peut expliquer l'impersonnalité dont se réclame Flaubert. C'est pas Dieu comme toute puissance, c'est voilà, comme Dieu. Non, c'est pas la toute puissance, c'est la capacité de percevoir ce que sont les autres. Mais est-ce que ça ne met pas ceux qui se réclament de Flaubert en porte-à-faux avec une des tendances les plus spectaculaires de la littérature d'aujourd'hui? La tendance à la confession, au vécu, à l'autofiction, puisque Flaubert ne cesse de répéter « écrire, ce n'est pas s'écrire ». Je ne veux pas considérer l'art comme un déversoir à passion. Donc voilà, choisir Flaubert, je ne sais pas forcément comme notre écrivain national, mais choisir Flaubert comme référence, est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas un choix polémique, Marie-Hélène Lafont ?
C'est un choix salutaire, salvateur, roboratif, fut-il polémique. En ce qui me concerne, depuis une vingtaine d'années que j'écris des livres, je n'en vois pas d'autres possibles, plausibles, envisageables, dignes et honorables.
Pas d'autres que Flaubert.
Pas d'autres que Flaubert et pas d'autres que cette position vis-à-vis des tripailles sur la table.
Ah oui.
Voilà. Donc c'est salutaire et salvateur.
Est-ce que vous diriez la même chose, Alexandre Postel ?
Ce qui l'anime, c'est cette recherche d'une forme de vérité qui n'est pas celle du sentiment. Il me semble cependant, pour revenir à cette question de la littérature personnelle ou confessionnelle, de l'autofiction, qu'on peut trouver dans les formes les plus réussies, les plus abouties et les plus fines que peut prendre cette écriture, un regard sur soi-même et sur son expérience qui ne soit pas précisément encombré par le narcissisme et les passions. C'est difficile, mais ça me semble possible. Et donc c'est pour ça que je ne rejetterai pas en bloc toute forme d'écriture de soi. Il y a des cas où l'équilibre peut être atteint.
Oui. Alors, un autre aspect de l'art de Flaubert, c'est son souci obsessionnel de la beauté, quand même. Parce que Georges Sand lui demande de moraliser. Elle lui dit même, si la leçon implicite que contient Madame Bovary avait été plus claire, plus explicite, tu, puisqu'il le tutoie, n'aurais pas eu tous ces ennuis. Si une partie du public, écrit-elle, criait au scandale, la partie la plus saine et la plus étendue, y voyait une rude et frappante leçon donnée à la femme sans conscience et sans foi, à la vanité, à l'ambition, à la déraison. On la plaignait, l'art le voulait, mais la leçon restait claire, et elle eût été davantage, elle eût été pour tous, si tu l'avais bien voulu, en montrant davantage l'opinion que tu avais et qu'on devait avoir de l'héroïne, de son mari et de ses amants. Alors, il dit « pas d'opinion », et il dit aussi que, précisément, je recherche par-dessus tout la beauté dont mes compagnons, les réalistes, sont médiocrement en quête. Donc, il laisse au lecteur le soin de se faire une opinion. C'est Flaubert qui dit « la logique de l'œuvre suffit aux postulations de la morale ». Il le dit précisément pour Madame Bovary. Et lui, il recherche la beauté. Et ça, c'est évidemment, c'est le tourment du style. Puisque, avec une extraordinaire, je trouve, acuité, il écrit ceci, « la prose est née d'hier. Voilà ce qu'il faut se dire. Le vers est la forme par excellence des littératures anciennes. Toutes les combinaisons prosodiques ont été faites, mais celle de la prose tant s'en faut. » Tout d'un coup, c'est la volonté de mettre la prose au niveau de la poésie, avec un souci stylistique permanent, qui fait que quand on lit Madame Bovary, on a envie de s'arrêter à chaque phrase. Et vous dites d'ailleurs, Marianne Hennefond, que vous récitez Flaubert par cœur. On récite par cœur des poèmes, mais on a envie de réciter par cœur Flaubert à cause de la beauté tout à fait extraordinaire et tout à fait nouvelle de la phrase flaubertienne, Marianne Hennefond.
À cause du rythme et de la justesse. Oui. Le rythme et la justesse, voilà, au sens musical du terme.
Exactement.
Et justesse, justice, bon, le rythme et la justesse. Et il me semble que si Flaubert avait tiré sa Madame Bovary du côté que lui conseille Georges Sand dans les propos que vous venez de lire, Madame Bovary ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous ne serions pas là, peut-être même aujourd'hui, à en parler. C'eût été une œuvre beaucoup plus démonstrative, beaucoup plus réduite à elle-même. Voilà. Tandis que la manière qu'il a de déployer la langue en laissant le lecteur s'en emparer, en être effaré, en être bercé, en être consolé, en être caressé, fait que Flaubert tient. Flaubert forever.
Flaubert forever.
Vous pourrez refaire l'émission dans 50 ans.
Ça, oui.
C'est pour toujours. Et cette éternelle verdeur, elle vient de là. Elle vient de cette étreinte avec la langue, de cette quête inlassable, de ce désir inlassable. Parce que quand il dit, c'est très net dans votre livre, et d'ailleurs, c'est très émouvant ce que vous montrez de cet homme qui a le sentiment qu'il est fini, qu'il est fichu. Et vous montrez aussi très très bien son étreinte avec la langue pour les moindres phrases de la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Et sa place, son élan, son éternelle jeunesse, elles sont là, dans cette manière de fourrager dans la langue.
Fourrager dans la langue, et là je cite aussi une autre lettre, je crois à Georges Sand, qui je trouve prodigieuse. « Ce souci de la beauté extérieure que vous me reprochez est pour moi une méthode. Quand je découvre une mauvaise assonance, une répétition dans une de mes phrases, je suis sûr que je patauge dans le faux. À force de chercher, je trouve l'expression juste qui était la seule et qui est en même temps l'harmonieuse, etc. La beauté et la justesse et la vérité vont toujours de pair pour Flaubert. C'est son pari, celui de la précision scientifique, oui, et de la beauté de la forme.
Oui, c'est cette continuité qu'il lui semble percevoir, qu'il pose entre le beau et le vrai. C'est le caractère indissoluble de cette union qui fait que sa littérature, la littérature à laquelle il ambitionne, est, comme il le dit dans ses échanges avec George Sand, exposante et non pas probante.
Oui,
il récuse la littérature probante au nom d'une littérature exposante. Et c'est ça aussi qui explique cette pérennité,
jeunesse,
cette éternelle jeunesse dont vous parlez. C'est que l'œuvre flaubertienne, elle a... Qu'est-ce que c'est en fait qu'être touché par un livre, qu'être marqué par un livre ? C'est d'abord en recevoir le choc. C'est un premier niveau. Et de ce point de vue, Flaubert, tout aussi fort qu'un autre, la première lecture de Madame Bovary, c'est un choc. On est en larmes. La lecture de Un cœur simple, c'est un choc. La lecture des amours de la dernière rencontre entre Frédéric Moreau et Madame Arnoux, et ce fut tout, étrangle le lecteur. Mais au-delà de cette force et de cette puissance de l'œuvre, sa durée tient au fait que Flaubert nous fournit, en fait, d'une certaine manière, de nouvelles lunettes et de nouvelles oreilles, un nouveau rapport au monde. C'est-à-dire qu'après avoir lu Flaubert, et après avoir reçu dans un premier temps, qui est celui de l'immédiateté de l'émotion, la violence du texte, eh bien, il reste avec nous, on entend le monde et on le voit, d'une autre manière. Et ça, rares sont les auteurs à produire cet effet. Je vois Proust aussi, mais Flaubert, c'est vraiment une expérience que l'on fait. Enfin, d'avoir lu notamment Bouvard et Pécuchet, par exemple, je n'entends plus le monde de la même manière.
C'est un
Marine Lafont.
Et non pas une leçon.
Voilà.
Un choc magistral, mais pas une leçon. Vous avez à plusieurs reprises employé le registre de l'oreille. En effet, on l'entend. Après l'avoir lu, on entend le monde d'une autre façon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime en avoir des bribes dans l'oreille qui permettent d'aller dans le monde, d'avancer son étrave dans le métro, par exemple, en se récitant à l'intérieur le début d'Un cœur simple.
Alors, moi, je ne me suis pas encore capable de réciter le début d'Un cœur simple. J'ai relu Un cœur simple pour cette émission et j'ai relu aussi le début de Madame Bovary. Et je voudrais en prélever quelques lignes. Très étonnamment, Madame Bovary, comme chacun sait, commence par l'entrée de Charles Bovary, celui qu'on va croire que ça s'appelle Charles Bovary, dans sa classe. Et ce nous, qui est tout à fait étonnant, tout d'un coup, Flaubert est un élève qui reçoit Charles Bovary dans sa classe, alors que le « nous » disparaît complètement. Mais il y a un « nous », nous étions... Ça commence,
nous étions à l'étude.
Hein, nous étions à l'étude. Mais que se passe-t-il ? Ben, la casquette. Voilà. Les mots de Flaubert sur la casquette de Charles Bovary. C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et de bonnet de coton. Une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. On lit cette phrase, on est obligé de la souligner ou de la noter dans son cahier de citation. On a envie que d'une chose, en effet, de la prendre par cœur. La perfection formelle est à son comble, et c'est une perfection à la fois esthétique et heuristique, parce qu'en effet, on voit la casquette, on voit les choses autrement, et il y a aussi cette sorte de pitié, de compassion extraordinaire qui, je dois dire, distingue un peu Flaubert de Proust. Proust est un auteur que je trouve beaucoup plus cruel. Il n'épargne dans son livre que la grand-mère. Et ce qu'il dit de l'amour est terrible. Flaubert aussi, nous y reviendrons peut-être pour Madame Bovary. Et en même temps, il y a chez Flaubert des belles amours naïves. Après tout, Charles Bovary tombe naïvement amoureux de sa femme. Il n'ira pas dire que c'est une illusion qu'il se fait, une histoire qu'il se raconte, etc. Pour une femme qui n'est pas son genre, non. Non, non. Il y a presque plus de capacité d'empathie chez Flaubert que chez Proust, Alexandre Postel.
Oui, Flaubert n'ira pas dire non plus, contrairement à Proust, que croire à l'amitié, c'est aussi absurde que de discuter avec des meubles en espérant qu'ils vous répondent. C'est vrai. Cependant, l'œuvre de Proust manifeste une attention et une sensibilité extrême à la question de la gentillesse et de la bonté. C'est un mot qui revient tout le temps et que Proust s'ingénie de manière, avec ce goût du paradoxe qui le caractérise, à réhabiliter hein, et à défendre. Voilà, lui.
Mais qui est bon?
Le si subtil.
Qui est bon dans La Recherche du Temps Perdu? À part la grand-mère et la mère.
Le regard.
Le regard de Proust n'est pas empreint de bonté. Il va le Marcel va de désillusion en désillusion. Il n'épargne personne. C'est ça qui est extraordinaire dans cette œuvre. C'est aussi son côté un peu étouffant, Alexandre Postel. Enfin, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui.
Mais moi, je pense que c'est très important. Ça, que c'est bon. Et on reviendrait aussi à Victor Hugo, d'ailleurs. Hein. Puissance égale bonté. C'est le titre d'un poème de Hugo, magnifique. Et chez tous les grands auteurs, il y a cette forme de bonté qui, que ce soit Proust, je le maintiens, que ce soit Flaubert, que ce soit Hugo, cette bonté qui émerge sur un fond de lucidité et qui n'est audible et perceptible et sensible qu'à partir du moment où elle va de pair avec l'ironie. Sinon, c'est du pur sentimentalisme. Sinon, ça n'est pas de la bonté. Il faut que la bonté se détache sur un fond qui est celui de l'ironie. Pour revenir à Proust, plus spécifiquement, et pour en finir là-dessus, je dirais que chez lui, il y a quelque chose de plus fluctuant. C'est-à-dire que la bonté est fluctuante. Tout le monde est capable de bonté, y compris les personnages les plus vils, les plus sots, les plus cruels. Mais c'est par intermittence.
C'est une très très belle défense que vous venez de faire. Marie-Hélène Lafont.
La bonté, ce serait une ouverture au monde, une sorte de vue large
voilà.
Sur les êtres, mais aussi sur les choses d'ailleurs, sur les situations, sur les moments, sur les saisons, qui permettrait de tout embrasser. Alors ensuite, évidemment, ça connaît des fluctuations, des pannes, des moments, on le sent bien dans votre roman, où on n'a plus la force de tout embrasser. Mais la bonté, ça serait un appétit d'être au monde. Et Flaubert, là, c'est un ogre.
Oui, c'est un ogre, oui. Il a cet appétit d'être au monde. D'un autre côté, il ne se paye pas de mots. Il est, je veux dire, notamment dans Madame Bovary, sur l'amour. Il y a un échange commenté par Alan Bloom dans L'amour et l'amitié entre Rodolphe, l'un des amants d'Emma Bovary, et Emma. Et dans cet échange, on voit Rodolphe dire « Pourquoi déclamer contre les passions? Ne sont-elles pas la seule belle chose qu'il y a sur la terre, la source de l'héroïsme, de l'enthousiasme, de la poésie, de la musique, des arts, de tout enfin ?» Et il dit ici, Alan Bloom, « Pour la première fois, l'anti-bourgeois est aussi ridicule et méprisable que le bourgeois. Ce qui semblait la solution est devenu une partie du problème. » Ça, c'est quand même, par rapport au romantisme, un congé donné au romantisme d'une violence inouïe chez Flaubert. Et avec lui, encore une fois, on ne peut plus se payer de mots, Alexandre Postel.
Oui, ben là, c'est la question de l'ironie qui surgit ici, celle de... Et ce prodigieux renversement, qu'il faut tout de même rappeler, poser et clarifier, que Flaubert opère vis-à-vis de la question même de la bêtise, de cette notion de bêtise. Puisqu'il prend la bêtise et il la retourne contre celui qui y croit. Être bête, c'est croire à la bêtise. Qui a intérêt à croire à la bêtise? Celui qui s'estime intelligent, celui qui estime en être exempt, et qui va taxer les autres de bêtises. Bon. C'est un peu comme avec la civilisation et la barbarie, par exemple, que Flaubert travaille et renverse de la même manière. Et de ce point de vue, ce renversement, puisque vous parlez du romantisme, ce renversement est romantique. C'est aussi le renversement que Victor Hugo, par exemple, a opéré par rapport au beau. et au grotesque. Et la bêtise, pour Flaubert, devient donc l'apanage de celui qui croit à la bêtise et qui énonce un rapport au monde teinté de fatuité, d'arrogance.
Oui, la bêtise, c'est aussi les idées reçues, voire les sentiments reçus. Oui. C'est ce que Heidegger plus tard appellera la dictature du « on ». Et Heidegger dit, c'est pas simplement qu'on pense comme on pense, on se révolte comme on se révolte, on s'indigne comme on s'indigne, et on peut même dire, on aime comme on aime, puisqu'elle aime à travers les romans. Donc, il découvre la bêtise comme un continent que personne n'avait jamais exploré comme lui. Donc, il y a l'arrogance de ceux qui se croient intelligents, et il y a aussi la bêtise généralisée dans laquelle nous sommes tous pris, parce que nous sentons comme on sent. Et ça, c'est vraiment une découverte de Flaubert, Marie-Hélène Lafont.
Oui. La bêtise, évidemment que c'est incontournable dès qu'il s'agit de Flaubert. Mais il me semble que il sait à quel point chacun la porte en soi.
Et oui, bien sûr.
Voilà, à quel point chacun l'apporte en soi. Et ce qu'il en écrit, ce qu'il en dit, la façon dont il l'incarne, la met en scène, tourne autour, la flaire tout au long de son existence et constamment dans ses pages, n'est supportable et n'est lisible que parce qu'il sait que chacun toujours doit lui faire face et lui tenir tête. Et par exemple, la façon dont il a Anne pendant des années, jusqu'à la fin de sa vie, sur Bouvard et Pécuchet, qui est peut-être le livre dans lequel cette question est la plus cuisante, me paraît très symptomatique de cette lutte perpétuelle.
Qui est aussi une acceptation.
Accent de pastel.
Qui est aussi une acceptation de la bêtise. Hein, c'est un continuum, comme vous, un continent et un continuum
dont
nous participons tous, de Charles Bovary à William Shakespeare, et seul Monsieur Homais s'en estime exemple.
Alors que c'est le personnage le plus bête,
voilà. Par conséquent,
qui soit imaginable.
Et par conséquent. Il atteint le sommet. Oui.
Et de fait, Flaubert, c'est ça également qui le rend. Qui le rend si touchant, si proche à certains égards, je trouve. C'est quelqu'un qui a conscience, mais de sa propre bêtise, de sa propre disgrâce, de ce que c'est que de prétendre penser, même si c'est bien sûr un penseur colossal, enfin sa correspondance en témoigne. Mais voilà, de ce que c'est que de penser et aussi d'avoir un corps. Hein. C'est-à-dire que ces deux éléments, hein, être bête et être grotesque, ce sont des choses qu'il accepte parfaitement. C'est l'acceptation ironique de l'existence.
Alors,
sa correspondance, à cet égard, ouvre des perspectives totalement faramineuses.
Oui, d'ailleurs, vous citez une lettre à Louis Bouilhet, du 10 février 1851, Marie-Hélène Lafont, à propos de son corps. « Je grossis, je deviens pedaine et commun à faire vomir. Je vais rentrer dans la classe de ceux avec qui la putain est embêtée de piner. » Donc, oui, il ne s'épargne pas.
Il n'a pas 30 ans, hein. C'est le voyage en Orient. Et la mue, il est question d'une mue dans votre roman. La mue de Flaubert se produit pendant le voyage, d'ailleurs. Hein. Il perd ses cheveux et sa bedaine pousse. Et ensuite, il va falloir qu'il s'arrange de ce corps-là. Et son corps commence à le tyranniser très tôt avec les dents.
Oui, il perd ses dents, oui.
Absolument. Il a mal aux dents très tôt.
Oui. Mais, d'un autre côté, les lettres de Flaubert sont débordantes d'intelligence. Et on se dit, il doit lui être facile d'écrire. Or, il nous affirme sans cesse le contraire. On arrive au style qu'avec un labeur atroce, avec une opiniâtreté fanatique et dévouée. Bien sûr, puisque le style pour lui, c'est mettre la poésie dans la prose. Et avant de parler de votre livre Alexandre Postel, je voudrais vous citer un écrivain et une phrase que chaque écrivain confirmé ou potentiel devait mettre sur son tableau de Liège, s'il en avait un. Un écrivain se fabrique à coups de blocage, de complexe. La syntaxe est une inhibition, l'histoire littéraire est une inhibition, Marcel Grévy c'est une inhibition. Quel crédit peut avoir un écrivain si rien de Bossuet, du point-virgule, d'Émile Littré, du discours indirect, des verbes intransitifs, non plus que de Monsieur Wynne, ne le fait renoncer. si rien ni personne ne lui reproche chacune de ses phrases. Qu'est-ce qu'un écrivain sans surmoi? C'est un écrivain sans conscience de ses devoirs, de ses responsabilités devant l'histoire et la tradition littéraire. Il y a une culpabilité qui devrait être propre à l'artiste. Il devrait se sentir moins capable que coupable d'écrire. C'est Bruno Lafourcade qui s'exprime en ces termes. Et moi, effectivement, quand je lis Flaubert, entre autres, eh bien, cette culpabilité que j'ai en moi s'aggrave encore, Marianne Lafont.
Je dis volontiers que la lecture réitérée et lancinante d'Un cœur simple m'a retenue au bord de l'écriture jusqu'à l'âge de 34 ans. Tout avait toujours déjà été fait, voilà. En 30 pages. Oui. Je persiste à le penser, mais je fais ce que je peux.
Alors maintenant, venons-en quand même à cet automne de Flaubert. Il va à Concarneau. Et il y passe quelques semaines, je crois, en compagnie d'un médecin. Et pourquoi avez-vous choisi cet épisode peu connu de la vie de Flaubert, où il ne se passe pratiquement rien, pour en faire un roman, Alexandre Postel?
Eh bien, parce que au-delà de sa contingence. En effet, ce séjour à l'automne 1875 à Concarneau, en compagnie du médecin et naturaliste Georges Pouchet, il me semblait qu'il se jouait là quelque chose de plus général et de plus mystérieux, qui m'attirait, qui excitait ma rêverie. Depuis un certain temps, je sentais la démangeaison de me pencher là-dessus, d'une part en raison d'une forme d'unité, unité de lieu, Concarneau, unité de temps, l'automne, unité d'action, ce séjour qui fait Flaubert, il arrive, il repart, et entre-temps il se passe quelque chose de mystérieux et de prodigieux, qui est qu'il guérit d'une certaine manière. La dépression, la mélancolie, le sentiment d'être fini, qui le submergeait et qui l'étouffait, s'allège peu à peu, et cela se manifeste par le commencement d'un nouveau texte, à savoir la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Et il me semble que le fait de vivre, il m'a semblé que le fait de vivre dans le voisinage d'un savant qui passe ses journées à disséquer des poissons, des mollusques, des crustacés, à observer leurs palpitations, les convulsions de la vie qui s'en va. Parce que c'est ce que fait Flaubert durant ces mois d'automne. Hein, il passe son temps à regarder cet ami travailler.
Il se baigne aussi.
Il se baigne aussi.
Ah, il se baigne, oui, il se baigne aussi. C'est très important pour lui.
Et qu'il y avait là une forme de proximité avec l'idéal littéraire, avec cet idéal justement de cette définition de la littérature comme une manière d'accompagner la vie, et qui se manifeste notamment dans le texte de Saint-Julien.
Oui, mais alors justement, c'est assez étonnant parce que il voit le médecin qui l'accompagne faire ses recherches, et par exemple, il y a le homard, il y a aussi un poisson dont j'ai découvert l'existence, l'aptysie, oui. Lièvre des mers, un mollusque.
Oui.
Et puis, il y a le turbot. Et les turbots, dit Pouchet, ce médecin, changent de couleur en passant d'une zone à l'autre. Et la question est de savoir par quelle voie le cerveau agit sur la pigmentation. Donc, il va, à ce moment-là, le médecin, il va inciser la chair pour aveugler le turbo, c'est ça, hein. Et un spasme écarte les mâchoires du turbo, le poisson est relâché dans l'eau, et même sur un fond de sable clair, il conserve sa couleur sombre. C'est intéressant parce que, à un moment donné, face à ces médecins stupéfaits, Flaubert fait l'éloge de Sade, de cette extraordinaire cruauté de Sade. Il choisit donc d'écrire sur la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, racontée par Jacques de Varogine dans la légende dorée, justement, Julien l'Hospitalier, à qui on prédit qu'il va tuer ses parents, comme Oedipe, et finalement, dans des conditions, etc., il les tue, sans savoir, évidemment, sans savoir que ce sont eux. Alors après, il essaye d'expier, et on le voit à la fin du roman de Flaubert, embrasser un lépreux. Sauf qu'il avait le goût du carnage.
Oui.
Hein, et c'est ça qui fascine Flaubert.
Oui.
Et une phrase, d'ailleurs, que vous citez à plusieurs reprises, parce que Flaubert y revient sans cesse, c'est un moment où, faisant la chasse, il se précipite sur un pigeon et il se précipite furetant partout, plus leste qu'un jeune chien. Le pigeon, les ailes cassées, palpitait, suspendu dans les branches d'un troène. La persistance de sa vie irrita l'enfant. Il se mit à l'étrangler et les convulsions de l'oiseau faisaient battre son cœur, l'emplissaient d'une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier roidissement, il se sentit défaillir. Extase sadique,
oui.
Et qui ressemble un peu à l'expérimentation du docteur Pouchet sur le turbo, comme si ce voisinage avec la science avait inspiré Flaubert quand il a écrit Saint-Julien l'Hospitalier.
Inspiré, je ne sais pas, mais réveillé en lui cette aspiration à l'écriture, à la lucidité, entendu comme un dévoilement de la vie. De ce point de vue, il y a toujours eu, hein, chez Flaubert, une forme de fascination pour la science qu'il tient comme pour le seul modèle de vérité acceptable.
Parce que c'est le père.
Alors, je oui.
La science, la dissection,
oui.
C'est le père.
Oui.
Une question que je pose parce que il y a deux scènes en écho dans votre livre qui sont saisissantes à cet égard.
Oui, le père qui était un chirurgien.
Voilà. Un chirurgien de renom qui dissèque
des cadavres.
Et
qui impressionnait, intimidait Flaubert.
Voilà.
Intimidait Gustave.
Oui. C'est ce qu'il m'a semblé. Il m'a semblé qu'il y avait, enfin, c'est ce que j'essaie de suggérer, en tout cas à travers les échos que vous identifiez, cette fascination pour la science est liée évidemment à l'autorité du père et la tentative du fils sera de conquérir par ses propres moyens qui a priori sont dérisoires, ridicules et on ne peut moins scientifiques, ceux de l'écriture, de conquérir une vérité similaire, voire supérieure à celle que la science peut atteindre. En dévoilant justement cette férocité, en dévoilant la vie dans ses palpitations, en l'accompagnant.
Et cette vérité supérieure, elle palpiterait au bout du scalpel de la langue.
Oui.
Et de lui dissèque la langue, lui fait rendre gorge. Et il mettrait au fond à son travail avec le verbe, le sujet, le complément, la virgule et tout le grand tremblement que l'on connaît. Dans cette étreinte-là, il mettrait cette ardeur qu'il admire et qui fut celle de son père et que vous prêtez au fameux Georges Pouchet, dont d'ailleurs parfois vous faites une figure renversée du père dans le livre. Et le père console. Le père fait ce que n'a pas fait le père.
Pouchet console, vous voulez
oui,
dire.
Oui, voilà. Le père Pouchet en tant que père console ce que ne fit pas Achille Cléophas.
Et oui.
Il le console et il l'aide à sortir de sa grande mélancolie.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Malgré qu'il en ait d'ailleurs. Parce que Pouchet ne cherche pas à le faire, mais il le fait.
Oui.
En étant ce qu'il est.
Voilà.
Alors ce que vous dites aussi, Alexandre Postel, dans Un automne de Flaubert, ce qu'il sait, vous parlez de Flaubert justement, ni les organes reproducteurs de la raie, ni le système nerveux du turbo, ni les chairs suppliciées d'une aplysie ne le montreront jamais, car seul l'art en détient le secret, avec ses phrases gorgées de sang, rythmées comme les battements d'un cœur, où la vie palpite dans la violence de ses contradictions et le mystère de ses métamorphoses. Donc l'art, par la précision que cherche Flaubert, ressemble à la science, mais pour ce qui est de la vérité ultime, l'art est supérieur à la science.
C'est le
credo flaubertien.
C'est le pari fou de Flaubert et auquel il se confronte très vivement, justement, dans les dernières années de sa vie avec Bouvard et Pécuchet.
Et très douloureusement, mais c'est
Marianne Lafont.
C'est le le sens même, enfin c'est l'épicentre de son existence. Toute sa vie tient là-dessus. Et dans la correspondance, c'est particulièrement sensible, avec en effet des crises de doute, des vertiges de doute absolument terribles, dont ce moment-là que vous saisissez dans Un automne de Flaubert est peut-être l'un
des... Et d'où vient le doute chez Flaubert, selon vous, Marie-Hélène Affond ?
Il l'a depuis toujours. Il ne vient pas de quelque part. Il est en lui. Il est constitutif. Alors, est-ce une disposition organique ? Parce que c'est quand même très organique, hein, tout ça. D'ailleurs, le mot revient dans votre livre. Le rapport à la langue est organique. Le corps a une présence faramineuse, totalement envahissante, dans la correspondance de Flaubert, mais aussi dans ses textes. La viande. Voilà. Et il me semble que le doute, il l'a sucé, dirais-je, avec le lait de sa nourrice.
Mais est-ce que ça ne tient pas aussi à son niveau d'exigence, cette volonté de beauté qui est la sienne, l'idée qu'il se fait de la prose, la torture que représente pour lui la phrase, hein, chaque phrase vraiment est une conquête, est-ce que c'est tout cela aussi qui le tourmente infiniment, Marie-Hélène Affond ?
Moi j'ai le sentiment... Plus je le relis ou plus j'avance dans la lecture de sa correspondance, plus j'ai le sentiment que le rapport à la langue et à cette exigence que vous dites est le symptôme du doute, mais que le doute préexiste. Il a une inconfiance radicale, et d'où le déploiement formidable d'énergie, des 17 heures et des 18 heures par jour, dites-vous, ai-je lu au sujet du moment où il est dans les trois contes, des 17 heures et des 18 heures par jour, éperdument, surtout qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et il le sent qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et c'est le corps qui le lui dit.
Il est mort à quel âge, Flaubert ?
Il était né en 1821, il est mort en 1880. Donc, il n'avait pas 60 ans.
Il est mort après George Sand.
Oui. Et là, on est en 1875, dans Un automne de Flaubert. Il lui reste 5 ans. Il ne le sait pas, mais son corps le sait. Et on l'entend, ça, dans votre livre, hein. On sent qu'il sait que son corps a lâché. D'autant plus que ces deux acolytes, Pentier et Poucher, sont glorieux dans leur quadragéniture. Et il en souffre. Il souffre comme un phoque. Mais il y a aussi dans ce livre, dans L'automne de Flaubert, une chose que je trouve très, très séduisante, c'est le rire. Parce que sa situation est terrible, mais on le voit qui rit de bon cœur avec ses compagnons au bain, ou bien qui s'empiffre d'une manière homérique, qui est un peu angoissante, mais doit tout de même lui procurer du plaisir. Il y a un accès au plaisir aussi.
Oui, c'est le rire et le plaisir de celui qui a accepté, je pense, une bonne fois pour toutes, que l'existence était ironique et confinée à quelque chose de pourri. Oui.
Et qui sait que la mort avance son étrave, toujours. Il le sait depuis les dissections d'enfance.
Il le sait depuis les dissections d'enfance, oui. Il le sait depuis la mort de sa jeune sœur, oui. De son père, de son meilleur ami. Voilà. Je pense que ça vient de là aussi, ce sentiment d'être, comme il le dit, un colosse tout pourri de faiblesse.
Oui. Tout pourri de faiblesse. Il pratique l'ironie, mais il n'aime pas la blague. Hein. Il n'aime pas qu'on blague trop. Et puis, en écho à ce que vous avez dit tout à l'heure, Alexandre Postel, je voulais lire aussi cette phrase de sa correspondance, une lettre à une personne dont vous parlez, je crois aussi, Marie-Hélène Affond, à Mademoiselle Leroyer de Chantepie. Je crois que jusqu'à présent, on a fort peu parlé des autres. Le roman n'a été que l'exposition de la personnalité de l'auteur, et je dirais plus, toute la littérature en général, sauf deux ou trois hommes peut-être. Il faut pourtant que les sciences morales prennent une toute autre route et qu'elles procèdent, comme les sciences physiques, par l'impartialité. Le poète est tenu maintenant de voir de la sympathie pour tout et pour tous, afin de les comprendre et de les décrire. Je trouve ça absolument extraordinaire, parce que l'impartialité, ce n'est pas l'indifférence, voilà. C'est la sympathie pour tout et pour tous. Une sympathie qui peut aller avec l'ironie,
bien sûr,
mais qui prouve que quand Flaubert dit par ailleurs, que parle par ailleurs de tous les embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire, ce qu'il ne supporte pas, c'est l'enfermement de la subjectivité en elle-même. Hein. vous avez raison, une littérature personnelle peut être aussi extrêmement enrichissante et forte, mais Flaubert dit cela. C'est-à-dire, et donc, c'est une sympathie plus grande, la sympathie pour tout et pour tous. Et une sympathie qui peut aller de pair avec cette cruauté.
Ah, mais qui, c'est... même, la cruauté et l'ironie est la condition de la sympathie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complète sans. L'ironie vient compléter ce lyrisme et cette propension à aller dans l'âme des choses, comme il le dit, oui. ne peut s'entendre sans l'ironie. Et c'est ce qui fait que la lecture de Flaubert est une expérience si étrange et si bouleversante, parce que d'un côté, nous subissons l'ironie, nous la prenons de plein fouet, qui nous révèle la fausseté de nos aspirations, l'arrogance de nos croyances, l'inauthenticité de nos désirs, que nous croyons les plus sincères. Et de l'autre, il y a donc, enfin, d'une part, ce vertige de l'ironie, et d'un autre côté, la sensation d'aller dans l'âme des choses et d'être profondément ancré dans la vie, dans le monde sensible, dans la sympathie que vous décriviez.
Le vertige Marie de l'ironie Lafond. Permet une distance indispensable face au déferlement du réel et des choses et du monde qu'il incarne. Et en effet, l'un ne va pas sans l'autre. Le texte serait probablement inaudible sans oui. l'ironie.
Et d'ailleurs, le dernier mot de Madame Bovary revient à l'ironie. Tout est fichu. Madame Bovary s'est donné la mort. Charles est mort. Et Monsieur Homais veut à tout prix la croix d'honneur. Et le dernier mot, la dernière ligne, il vient de recevoir la croix d'honneur. Voilà comment se termine cet immense roman. Mais merci à vous deux, en tout cas, pour cette très belle discussion. Je rappelle, Alexandre Postel, que vous venez de publier chez Gallimard Un automne de Flaubert, ce roman donc sur le séjour de Flaubert à Concarneau. Marie-Hélène Lafond, vous avez dans la collection Les auteurs ma vie chez Buchet-Sastel, écrit le Flaubert, avec des extraits de son œuvre. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Auchard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.